ça, moi, je savais pas c'est quoi la France. Enfin, je savais pas si ça existe ou pas.
Et nous, on a trouvé le coin le plus impossible possible parce qu'on savait rien sur l'agriculture encore.
Ça, je me dis, bon, ici, c'est la liberté des paroles. Et ça, j'ai bien aimé.
Piero Marcel, il lançait des pierres à ma sœur Rita, macaroni, puis ils se sont mariés.
Nous sommes Carrefour ici, et c'est, j'adore ça. Parce que dans cette Carrefour, vous pouvez trouver tout le monde.
Si on est attentif, il y aura seulement un petit trait, même si c'est un truc comme infime, quoi, qui nous dit.
Montagne cosmopolite.
Je suis Sjoerd Wartenaar, venu ici dans le Diois en 73 pour faire des chèvres et après les plantes aromatiques. Et qui faisait partie de tout ce retour dans la nature des années 60 et 60, début 70. Et au contraire de beaucoup de gens qui sont venus dans le même temps, nous on est restés et on est toujours là. Je suis né en Amsterdam. Je suis né en Amsterdam et je vivais dans une petite ville à côté, 10 km d'Amsterdam. C'était une petite ville industrielle et agricole. L'industrie, c'était Van Houten Chocolat. Mon village, il s'appelait Weesp, c'était le ville de chocolat. Il travaillait plus de 1000 personnes, tout était Van Houten à mon ville. Mais autour, 10 kilomètres d'Amsterdam, c'était encore totalement un paysage rural. C'était des fermes avec des vaches. Et mon père était médecin, et j'allais avec lui souvent visiter ces paysans. Et c'était quand on se promenait, on prenait le vélo, et on était toujours tout de suite dans les prés et on voyait des fermes. Je suis né juste avant la guerre, et en petit enfant, je me rappelle bien que pendant la guerre, j'allais manger dans une ferme pas loin de notre ville. J'ai de très bonnes mémoires de ce première partie de ma vie. Je ne voudrais pas devenir médecin comme mon père, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, et quand bon, on peut aller encore plus loin. Donc j'ai changé, je suis devenu philologue. J'ai étudié la langue néerlandaise et surtout le début, donc le Moyen Âge, etc. Et après, j'ai travaillé dans la bibliothèque universitaire d'Amsterdam pendant 5-6 ans. Mais ça, c'était la période des grandes révolutions sociétales, le mouvement Provo en Amsterdam, après les 68 ans à Paris, on a fait en 70 deux grands voyages en États-Unis avec ma femme, parce qu'en 68 on a se marié, et on a fait de grands voyages en États-Unis qui étaient en complet désordre. Personne n'allait à l'école, tout le monde était à la route. On avait l'anti-Vietnam, le Black Panther Movement, Flower Power. La Hollande était assez libertaire et il passait beaucoup de choses. Dans les années 60 et surtout à la fin des années 60, Amsterdam c'était le nombril du monde. Il n'était pas un étudiant ou un Américain qui croyait que sa vie était réussie, c'était mal réussi, c'était pas aller à Amsterdam. Et dans le centre, c'était couvert de jeunes de monde partout. On avait une vie très mouvementée, laissons-nous dire. On était quand même intéressé, peut-être influencé par tous ces mouvements, ces réflexions nouvelles dans la société. On a visité des amis en Italie et on voyait une petite ferme à côté de leur place et on disait peut-être on va se mettre ici et on va chercher un peu de travail autour. C'était un rêve. En États-Unis, on a visité des communes, ça nous intéressait quand même. Donc, en fait, on était en train de se préparer à quelque chose d'autre, peut-être. Et quand ma femme était enceinte, on disait, mais avec un enfant et tout, on a vu assez, on doit changer de toute façon. Donc, on cherchait aussi autour de l'Amsterdam de trouver un coin, mais en Hollande, on ne trouve rien, pratiquement, c'est trop peuplé. Donc, la France était une possibilité. Et quand des amis hollandais qui ont fait le retour à la nature en France nous ont demandé de commencer ensemble une ferme, on a dit, allez hop, on va le faire. Et c'était une sensation dans notre entourage, mais on était fous, et on était fous aussi un peu. Et voilà. C'est ça l'histoire. On a donc fait une annonce dans le journal et on avait 15 ou 16 réponses partout où on trouvait des fermes. Et nous, on a trouvé le coin le plus impossible possible parce qu'on ne savait rien sur l'agriculture encore. C'était vraiment une aventure de fou. Et on disait, on va à Cherenquin, comme ça personne ne nous voit et on peut calmement apprendre comment il faut faire. Mais ma chère Anquin, ce n'est pas vraiment le coin le plus... Vous venez de Sainte-Croix, où l'eau coule toute l'année, mais à Vacher, ça ne coulait pas. Hein. C'était un des grands problèmes. Et les gens nous avaient mal informés là-dessus. Ils disaient que c'est pénible l'été. Ça veut dire qu'il n'était pas de l'eau. Et faire des chèvres et avoir de jeunes enfants et commencer un ménage à Vacher... Bon, les gens qui habitaient là depuis toujours, ils ont souffert aussi, mais c'était dur hein, de survivre à Vacher. C'était autre chose que survivre à Saint-Julien ou à Sainte-Croix, je peux vous le dire. C'était quand on est venu ici en 73, il était souvent l'été, pratiquement chaque été, il n'était pas de l'eau, ou pratiquement pas de l'eau. Une heure par jour, un peu de robinet. Donc on cherchait toute l'eau à Sainte-Croix. Dans des bidons. Vous vous rendez compte? Comment on est fou? On ne savait pas, c'était un rêve, le retour à la nature, et c'était un coin vraiment sauvage. Hein. Comme je disais, ils vivaient si vieux qu'ils attendaient la fin de leur civilisation. C'était fini. C'était vide. Il y avait une famille parisienne qui avait acheté une maison dans le même temps pour vacances. Et ils n'étaient pas super contents qu'on venait là parce qu'on leur embêtait dans leurs idéaux de nature sauvage et silence, etc. Mais les gens, les vieux de Vacher, ils étaient très contents parce qu'ils voyaient de lumière dans les maisons, ils voyaient des enfants dans la rue. Pour eux, c'était pas mal. Ils ont nous bien, bien reçus. Quand on vient dans un coin où on fait la concurrence sur la terre et sur les maisons, etc., c'est autre chose. Mais là, on ne venait pas faire de concurrence. Leurs enfants étaient partis. Quand nous venons ici, dans le Diois, c'est un pays de désertification. Les gens s'en allaient. Le vieux disait, arrête ça, c'est fini. L'agriculture, ici, c'est plus possible. C'était les 30 glorieuses, c'était le changement de l'agriculture, c'était l'agrandissement, c'était le technique, le tracteur, la moissonneuse-batteuse. Et donc, faire à Vacher avec tout ça, il n'est pas un champ plat, c'est tout en pente. C'était totalement pas adapté à l'agriculture moderne. Et avec le temps moderne, laissons-nous dire, l'Ardèche s'est vidée, le Diois s'est vidé, les gens sont partis. Des coins comme Vacher, c'était doué à devenir forêt. Il était une famille de famille Achard avec 10 enfants, et Madame Achard était super contente que ces 10 enfants étaient tous avaient trouvé tous une place ailleurs. C'est pour ça que quand on cherchait une ferme, on avait 20 réponses. Mais quand nous sommes venus et on a quand même adapté un certain nombre de choses au temps moderne, elle disait, mais si on avait su ça, on avait peut-être, mes enfants avaient pu continuer un peu plus que ça. Oui, c'était les leçons des ingénieurs agricoles, ça, hein, qui ont vidé toute l'arrière-pays française. C'était, bon, d'abord, c'est la guerre. Hein, la Première Guerre mondiale a déjà vidé une bonne partie de ça. Mais si vous voyez comment ce pays était plein de monde en 1850, en 1850, à Vacher-en-Quin, ce pauvre petit bled, 100 personnes vivaient ici, 100 personnes. À Saint-Jean-en-Quin, c'était plus que 1000, je crois. Il était un hôtel, deux hôtels, un notaire, c'était un grand marché, c'était incroyable de tout ça. Bon, on avait acheté une maison, en 72, on a acheté deux maisons, une maison en ruine et l'autre maison habitable. C'était fantastique aussi, les familles avec qui on l'achetait, ils ont tout laissé. Toutes leurs armoires pleines de linge, de très jolis vêtements enfants, de tous les meubles, tout, ils ont, paf, ils sont partis et ont laissé tout. Et avec cet argent, ils ont acheté un petit appart, ou petite maison quelque part pour leur vieil jour. Donc 72, c'est la première famille Chouk qui a s'installé. Et nous sommes venus en 73 et on a commencé à retaper l'autre maison qui n'était pas habitée pendant 100 ans, qui était tout, c'était des fentes dans le mur, le toit était renouvelé totalement. Et là aussi, on est devenu pour apprendre l'agriculture, mais on avait dû apprendre la maçonnerie en même temps. Hein. Et c'était tout. J'avais jamais touché un marteau dans ma vie. C'est fou. C'est fou. Mais bon, on a eu beaucoup d'aide, des amis aussi, et qu'on a bossé, quoi. Assez vite, on avait quand même quelques copains ici qui étaient aussi nouveaux dans le coin. Parce que quand on est venu en 73, il y avait au moins 10 communautés dans la région ici. Hein. Nous, on était déjà assez âgés. On avait 30 et 34 ans. Mais la plupart de ces jeunes qui venaient faire leur tour à la nature, en communauté, autre vie, etc., c'était l'utopie totale et il avait 22 ans ou 25 ans peut-être, mais, ou 20 ans, très jeune. Donc on avait un copinage un peu plus jeune que nous. Et il était quand même quelques paysans qui étaient très, très gentils et accueillants et curieux et qui ont nous beaucoup aidés. Je me rappelle bien leur nom. René Bernard de Pontet. Et Lilou Marcel a dit, qui avait sa mère, venait encore de Vacher, chez Para, et qui était paysan à Vacher en Caen aussi. Ce sont des gens qui ont nous bien appris. Et je dois dire qu'il était quelques techniciens de la Chambre d'agriculture qui dans ce temps était encore moins syndicalisé et beaucoup plus ouvert à tout ce qui se passait. C'est M. Lys qui habite toujours à Die et M. Damiani, l'expert de chèvres de la chambre qui ont énormément aidé. Ils ont nous aidé à trouver des subventions, à construire ils ont nous appris comment construire une écurie, etc. Quand on a fait quelque chose avec le troupeau, on téléphonait et Damiani venait toujours, c'était super. Sans eux, on n'était pas réussi à faire ce qu'on avait fait. Mais bon, on a eu après des problèmes de. Nos copains sont divorcés et on a eu des autres partenaires et qui sont divorcés. Et après, on a eu des divorces. Bon, c'est une longue histoire. La famille Vink a déménagé à Die et ils ont développé notre nouvelle activité de plantes aromatiques. Et de ça est devenu l'herbier du Diois Châtillon qui actuellement embauche plus de 50 personnes et qui joue un grand rôle dans l'arrière-pays de Diois. Mais à un certain moment, ils sont venus des gens qui faisaient la vie dans le village impossible. Donc on est descendu ici. On vit ici depuis 79. En bas, et plus dans le village. Donc on a d'abord retapé une maison totalement là-haut, et après on a retapé la maison ici. Ce que j'ai appris généralement de ce genre de communauté ou de collectivité ou de coopération, etc., il faut mieux commencer indépendant, et se rapprocher que de commencer ensemble et de s'éloigner. Ce que j'ai vu souvent, et je dis ça aussi quand on rencontre des projets pour Terre de Liens, je dis toujours, il faut mieux commencer séparés, chacun son truc, et se rapprocher et dire, mais écoute, est-ce qu'on peut utiliser le tracteur? Est-ce qu'on peut acheter un tracteur ensemble? Est-ce qu'on peut échanger les parcelles, etc.? Quand tu commences à faire une caisse ensemble et qu'on doit tout le temps tout discuter ce qu'on va faire, ça crée plutôt plus tard des problèmes. Et bon... Le seul communauté qui marche depuis des siècles sont des monastères, mais ils ont un lien très fort au-dessus d'eux pour s'accorder. C'est Dieu lui-même qui leur dit qu'il faut faire. Mais autrement, l'homme est faible et il faut mieux se rendre compte et commencer prudemment. Après, à un certain moment, on a continué tout seul ici. Et après, on a laissé tomber les chèvres et on a trouvé le successeur pour ça, qui sont la famille Hans Schmidt et à l'autre côté, et qui était indépendant. Nous faisons des plantes aromatiques et ma femme travaillait ailleurs. Elle était devenue à nouveau assistante sociale. Mais très vite, on a dit, mais écoute, est-ce que ce parcelle, je peux planter du thym ou de calendula ou autre chose? Et toi, tu utilises mon champ de sauge que j'ai plus besoin. On avait des tracteurs ensemble et en plus, nos successeurs dans les chèvres, c'était des gens super et très souples. Donc, on a travaillé ensemble exemplairement, sans une vraie entente ou une forme juridique. Bon, on ne peut pas généraliser, ça peut passer autrement, mais c'est quand même une expérience qui est intéressante d'être entendu par des gens qui veulent commencer une collectivité. Pourquoi on est resté? Parce qu'on trouvait que c'était un intéressant mouvement quand même, le retour à la nature, l'agriculture paysanne et bio, voilà. Et c'était une solution pour beaucoup plus de gens que nous. Mais il était des barrières. Et les barrières sont ce fameux FNSA, politique agricole commun en Europe, qui vont faire l'agrandissement et l'industrialisation de l'agriculture et qui font des paysans le serviteur de l'industrie agroalimentaire. Donc, si on veut faire des choses comme nous, il faut pas attendre de la politique quelque chose d'important. Il faut le faire soi-même. Ça doit devenir de société civile. Changer la politique agricole et changer la politique de gestion de la terre, On n'a rien à attendre de la politique, ni rien à attendre des grands syndicats agricoles. Et depuis les années 80, j'ai réfléchi sur le fait comment on peut faire l'entrée à la terre, l'accès à la terre plus facile pour des gens comme nous qui viennent d'un milieu non agricole et qui veulent s'installer et qui veulent développer un projet dans notre sens, hein, agroécologique, diversifié. J'ai fait le voyage ailleurs, j'ai vu comment ça s'est... Il était le Banque Verte d'Hollande, le Triodos, avait fait un fonds vert pour acheter des terres pour le paysan, et j'ai demandé comment ça fonctionne. Eux, ils m'ont dit, va voir aussi en Angleterre. Je suis allé en Angleterre, où j'ai trouvé une fondation qui cherchait aussi des soupes chez des gens pour acheter des fermes et installer des jeunes pour la agriculture biologique. Tout ça, m'inspirait bien. Et je disais, mais je ne pouvais pas faire ça toute seule ici en France, donc je cherchais des gens pour le faire avec moi. Donc je suis allé à Peuple Culture, où il y avait une partie qui était plus concrète, c'était Relié. C'est une organisation des acteurs ruraux qui se réunissaient de temps en temps et échangeaient leurs pratiques. Et c'est là que j'ai fait, enfin j'ai trouvé des complices pour faire ensemble un groupe de travail sur mon projet. Relié a nous mis à disposition un garçon, Jérôme de Koning, et avec lui on a vraiment développé avec lui et avec la NEF. Parce qu'on avait le directeur de NEF, c'était Jackie Blanc, et qui était très, très enthousiaste dès le début. Et après, on avait le mouvement biodynamique, la fondation de l'agriculture biodynamique aussi, qui sont venus nous aider. Donc on a, avec un petit groupe de travail, commencé à réfléchir comment on doit s'organiser. Surtout, c'était important de trouver un moyen que les gens investissent avec une idée qu'ils peuvent récupérer leur argent à un certain moment. Ce qui était très difficile avec avec l'expérience, ce qu'on a eu avec le groupement foncier agricole, qui sont plus petits et qui sont plus vulnérables si quelqu'un retire son argent. Et c'est là qu'on a en fait étudié pas mal de solutions, et on a fini à la fin de faire une société d'investissement commanditaire qui fait que les gens qui investissent ne sont pas les gens qui gèrent. Et donc on avait une société d'investissement qui était gérée par la NEF et par Terre de Liens. Donc on a d'abord fait en 2003 une association avec l'objectif de créer un fonds d'investissement et une fondation. Et après, on a en 2006 démarré vraiment cette société d'investissement avec un premier actionnaire qui voudrait y mettre 50 000 qui était nécessaire pour être reconnu. Et après, on a fait une première campagne chez l'autorité de marché financier qui n'était pas évident, et c'est surtout Habitat Humanisme qui était notre exemple et qui a nous aidé à démarrer avec leur service juridique. Et on a eu un accord que moi je trouvais absolument absurde de pouvoir un appel public à l'épargne pour 3 ou 4 millions d'euros, je crois. Je me disais, mais si on trouve 100 000, c'est déjà super. Mais c'était incroyable, avec l'aide surtout, aussi avec une brochure dans tout le Biocoop. Et dans quelques mois, on avait dépassé les 3 millions d'euros. C'était absolument un miracle, je pense. Et après, on a pu se développer assez vite parce que toutes les régions de France avaient à ce moment un gouvernement socialiste vert. Et les Verts ont mis un peu comme condition à leurs amis socialistes qu'ils aidaient Terre de Liens. Et c'est comme ça qu'on a pu très vite, dans beaucoup de régions, avoir un département Terre de Liens qui a développé dans son coin l'idée et aussi des actions. Et ça, c'était très utile. Et après, on a eu le soutien de Fondation de France et les choses ont se développé dans une grande vitesse. Et en 2010, on a fait donc une fondation parce qu'on pouvait pas, le Fondation d'investissement pouvait pas recevoir des dons. Donc, on a actuellement aussi une fondation qui reçoit de plus en plus de legs et de donations et qui fonctionne bien aussi. Actuellement, on dépasse les 5000 hectares, on a à peu près 300 fermes et on a beaucoup de petites fermes, mais de petit à petit, on commence aussi à avoir des demandes de plus grands paysans qui veulent que leur ferme sera continuée dans le cadre de Terre de Liens. Ce que est devenu Terre de Liens montre bien que c'est que quand tu as des résultats et quand tu peux montrer une certaine organisation qui fonctionne, que tu es écouté. Actuellement, quand je dis quelque chose, je suis écouté de temps en temps à cause du fait qu'on a une société d'investissement qui va directement vers pas loin de son premier 100 millions d'euros. On est soutenu par la banque de caisse de dépôt qui prend des parts chez nous. On est reconnaissé par le ministère de l'Agriculture, enfin. On est écouté à Bruxelles par nos partenaires et par la Commission, etc. Et tout le monde connaît Terre de Liens actuellement. Donc ça montre que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc le plus de fermes et le plus de l'argent qu'on réunit, le mieux c'est. Notre rôle c'est surtout d'agrandir les exemples, comment on peut faire autrement. Je crois actuellement déjà à peu près on ajoute 30 fermes chaque année à notre réseau. Et ça peut devenir beaucoup plus. Il faut peut-être trouver des autres partenaires encore qui font un peu la même chose. Mais je crois que le plus important, c'est l'augmenter le plus possible et l'augmenter aussi dans un contexte européen. On a, et c'est là-dessus que je m'occupe encore, c'est le réseau Access to Land. C'est un groupe de travail avec une douzaine de pays européens et à peu près 19 organisations. Le but de ce groupe de travail, c'est de faire une pression à Bruxelles et surtout sur nos partenaires de se réunir et de devenir une vraie force de proposition et d'action, rapport de force. Et surtout aussi essayer d'aider de nouveaux initiatives, surtout dans l'Europe d'Est, où c'est très difficile de créer d'accès à la terre pour notre agriculture. Jean Mallory, vous avez vu cet article dans le Télérama? Pourquoi est-ce aussi important à vos yeux ce travail d'ethnologue et la vie des Esquimaux et des peuples, des indigènes?
Jean Mallory, interrogé par Stéphane Jarnot pour Télérama en juillet 2020.
Il en va de notre survie. Je suis persuadé que ces minorités, qui ont toujours été tenues pour quantité négligeable par la pensée occidentale, sont appelées un jour à jouer un rôle capital. Leur conception et leur usage du monde constituent peut-être le deuxième souffle de l'humanité. Ces peuples ont su préserver un lien vital et hypersensoriel avec la nature, que nous avons perdu depuis le néolithique et qui nous fait tant défaut depuis. C'est intéressant et moi j'ai été frappé par ce qu'il disait là, parce que c'est une des raisons pourquoi nous, on a rencontré chez ces vieux qui étaient à Vacher, qu'ils ont nous appris leur métier en fait. Là, on touchait à quelque chose qui était en train de disparaître complètement et qui était exactement comme Mallory dit d'Eskimo. Moi, je disais, leur façon de faire est l'inspiration pour l'agriculture moderne de ma façon. Très diverse, une grande connaissance de la nature, de leur entourage, un sens de limite, une certaine humilité envers la nature et un rythme de travail très, très calme et réfléchi. Tout ça, c'était en train de disparaître et c'était exactement ça qu'on a besoin. Leur façon de vivre avait des aspects que nous, on a acceptés et même assumés et adaptés à le temps moderne, mais pas jetés. Et c'est ça le vrai leçon qu'on a appris ici et qui a fait qu'on a voulu agrandir l'occasion pour des autres jeunes d'avoir cette expérience. C'est pas pour rien que les handicapés, les prisonniers, les enfants sont bien quand ils sont dans la nature et avec les bêtes. Tout le monde utilise ça pour calmer les gens et pour leur mettre en meilleure situation. Et si c'est pour ces gens, c'est pas pour nous, c'est pour nous pareil, parce que nous aussi, on est de schizophrènes et de dépressés, de burn-out, de n'importe quoi. Donc le deuxième souffle de Mallory, j'ai tout de suite compris quand je lisais ça.